I just don't understand how people could sell that type of a gun to an 18-year-old.
On peut pas décider comme ça d'inclure un tout nouveau champ dans l'aide médicale à mourir.
Tout arrachait, les arbres tombaient. D'autres, je pense que ça a duré 10 minutes, mais ça a paru plus long.
Bonsoir. L'Amérique pleure la mort des 19 enfants et des deux enseignantes abattues hier dans une école primaire de Uvalde, au Texas. C'est la fusillade la plus meurtrière dans une école depuis celle de Sandy Hook au Connecticut il y a 10 ans. Et comme après Sandy Hook, de nombreuses voix s'élèvent pour demander aux élus de resserrer le contrôle des armes à feu. Alors, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? On va en discuter un peu plus tard avec notre analyste Valérie Beaudoin. Je vais aussi m'entretenir avec une Québécoise qui travaille dans une école primaire du Texas, pas très loin du lieu de la tragédie. Mais d'abord, avec Louis-Philippe Bourdeau, on va faire le point sur les plus récents développements. Bonsoir, Louis-Philippe.
Bonsoir, Noémie.
On en sait un peu plus sur le tireur. Il avait 18 ans et il avait fait part de ses intentions sur Facebook.
Une demi-heure avant la fusillade, il a indiqué dans un message qu'il voulait s'en prendre à sa grand-mère. 15 minutes plus tard, il disait « Je vais m'attaquer à une école primaire ». Mais c'était trop peu, trop tard. Ce sont des détails, des nouveaux détails qui émergent de cette enquête, des détails qui sont parfois difficiles à entendre. On a appris aujourd'hui également que le tireur s'était ni plus ni moins barricadé dans l'une des classes avant de faire feu sur les élèves avec un fusil qu'il a acheté légalement dans un magasin d'articles de sport au mois de mars dernier. Ce que les autorités ont dit aujourd'hui, c'est que les 19 victimes ont été identifiées, les familles ont été avisées. Là, maintenant, bien, les visages qui commencent à apparaître lentement mais sûrement sur les réseaux sociaux qui sont partagés, la plupart avaient 10 ans. Il y a José, Ouzia, Xavier, Lexi, Améry. Voici la tante d'Eliana Garcia, l'une des jeunes victimes.
You wouldn't find out about her until late last night. She was very happy and very outgoing.
She sounded like a good girl.
She was.
Noémie, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a fait le point sur la situation, a dit que ce n'est pas une question d'armes à feu, mais davantage une question de santé mentale aux États-Unis. Donc, il a mis le blâme là-dessus plutôt que la gestion des armes à feu. Il a dit que ce n'est pas un moment pour parler de politique. Eh bien, quelques minutes après, il y avait son candidat, son opposant démocrate au poste de gouverneur du Texas, qui est entré dans la salle, a fait interruption. Et ça résume assez bien les deux camps, la position des deux camps. On peut écouter un extrait de cette altercation.
This is on you until you choose to do something different. This will continue to happen. Somebody needs to stand up for the children of this state, or they will continue to be killed just like they were killed in Uvalde yesterday.
Every American has a responsibility where we need to focus not on ourselves and our agendas. We need to focus on the healing and hope.
Et le président américain Joe Biden vient tout juste de s'adresser aux médias.
Oui, parce qu'on sait qu'il signait aujourd'hui un décret, hein, 2 ans après la mort de George Floyd, pour resserrer,
réformer
la police au fédéral. Il a commencé son allocution en parlant de la fusillade au Texas, en répétant essentiellement le même message qu'hier. Il est temps d'agir. Il faut resserrer les lois. Il dit que ce n'est pas normal qu'un jeune homme de 18 ans puisse avoir accès à une telle arme. Et de notre côté de la frontière, le premier ministre Justin Trudeau a également offert ses sympathies au peuple américain. Il a dit que le gouvernement fédéral va annoncer au cours des prochaines semaines de nouvelles mesures pour resserrer les armes à feu au pays. On peut l'écouter.
Je vais devoir encore une fois parler à mes enfants. On ne devrait pas avoir ces conversations au Canada, aux États-Unis ou nulle part ailleurs. Nous avons tous une responsabilité de faire tout ce qu'on peut pour protéger nos enfants et tous les Canadiens.
Et Joe Biden qui devrait se rendre aux États-Unis au Texas, puis au cours des prochains jours.
Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Plaisir.
On va aller retrouver au Texas Joannie Paillé. C'est une Québécoise qui travaille comme tutrice dans une école primaire de San Antonio, donc à 1h30 de route de Uvalde. Bonsoir, Joannie.
Bonsoir.
Merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous avez réagi en apprenant la nouvelle d'une tuerie de cette envergure tout près de chez vous?
Ça fait très, très peur, très stressant de revenir au travail ce matin. Essayer d'aborder le sujet avec nos élèves, même si on ne veut pas aller trop en détail pour leur faire peur de l'école, puisque l'école, c'est leur sécurité. Mais On peut même pas essayer de penser. Je peux même pas essayer de penser que les professeurs, les élèves, les amis, les tantes, les grands-mères, tout le monde peut penser. C'est incroyable que quelqu'un peut faire ça.
Et dans votre école aujourd'hui, comment allaient les autres profs, les élèves? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre école, sachant ce qui s'est passé tout près?
Dans notre école, si je travaillerais pas ici si je me sentirais pas en sécurité, mais nous avons gardé notre policier qui vient chaque matin à l'école pour toute la journée pour faire sûr, puisqu'on recevait des professeurs pour une cérémonie avec nos quatrièmes, on voulait faire sûr qu'on était protégés. Nous avons fermé, barré les portes toute la journée. Même présentement, on laisse aller les enfants aller à la maison et on fait sûr que toutes les portes restent fermées pour faire sûr que, bon, rien n'arrive.
Mais ce que je comprends, c'est que vous êtes déjà préparé à ce genre d'éventualité puisque ce policier qui est toujours présent, puis vous faites aussi régulièrement des exercices pour vous pratiquer à une situation d'urgence comme ça?
Effectivement, à chaque 2 à 3 mois, on fait des exercices avec les étudiants ou ce qu'on va en lockdown, qu'on appelle en anglais, qui est dans le fond une sorte d'isolement où ce que les portes sont barrées. Puis on met un genre de petit rideau devant les portes. On met nos étudiants en silence contre le mur pour pas que, bon, si jamais il y a quelqu'un dans l'école, voit les étudiants dans la classe ou en dessous de les tables. Où ce qu'ils font leurs travaux. Puis c'est comme si on reste comme ça environ 15 à 20 minutes.
Wow! Donc, on voit à quel point cette réalité-là est présente dans votre quotidien. Puis le Texas, c'est une des lois où... un des États où les lois sur le port des armes à feu sont les plus permissives. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Vous êtes originaire de La Chute. Et là, vous vivez dans un endroit où presque tout le monde autour de vous pourrait potentiellement porter une arme.
Oui, c'est très difficile, surtout avec, comme vous dites, j'ai grandi avec une mentalité vraiment différente. Mais disons que c'est soit qu'on reste ici, qu'on essaie de se battre, qu'on essaie de... ou que, bon, on va toujours essayer de dans le fond, de repartir au Canada ou essayer de... Donc, je dois être ici pour mes élèves. Puis, si ça arrive, c'est sûr que je vais faire tout pour protéger mes élèves. Que ça peut arriver. Je vais prendre mes précautions en essayant de savoir tout de suite où sont mes sorties de secours dans l'école. Puis c'est sûr, c'est très difficile.
Mais on vous souhaite certainement pas que ça vous arrive. Prenez soin de vous et merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Notre analyste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, se joint à nous. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir, Noémie.
Donc, les réactions politiques, évidemment, sont très nombreuses. Le président Biden qui appelle ses collègues élus à adopter des réformes sur le contrôle des armes à feu qu'on attend depuis si longtemps. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir? Est-ce qu'il y a un signe d'ouverture de la part des élus républicains en ce moment?
Et s'il y a une ouverture, elle est vraiment minime parce qu'en ce moment, les réactions, juste dans les premières minutes, les premières heures après l'annonce, on voyait déjà une opposition. D'un côté, les démocrates qui disaient « il est temps ». On a eu Sandy Hook il y a 10 ans, on s'en est parlé d'ailleurs hier.
Oui.
On a encore une autre tragédie qui implique des enfants. On en a à chaque semaine. Est-ce qu'il est temps d'agir? Oui, il faut le faire. De l'autre côté, les républicains qui disent « Dieu n'est pas assez présent dans la vie des gens, on a des problèmes de santé mentale, toutes les raisons, on tourne autour du pot, sauf pour parler du dossier des armes à feu. Et vous avez parlé tout à l'heure avec ton journaliste, justement, de cette altercation entre le gouverneur du Texas et Beto O'Rourke, qui est le candidat opposé. Et je trouve que ça démontre exactement ce discours de sourd. On ne s'entend pas parce que Beto O'Rourke lui disait « Vous êtes responsable, votre inaction a eu un impact sur ce qui s'est passé ». Et de l'autre côté, on ne veut rien entendre, on ne veut pas parler de ça du tout du débat. On dit qu'on politise le débat du côté des démocrates et au contraire, les démocrates pointent du doigt les républicains en leur disant « vous ne faites rien ». Alors bref, on ne s'entend pas. Est-ce qu'on va s'entendre? J'aimerais, Noémie, te dire que oui, le dire aux téléspectateurs. Mais malheureusement, il y a très peu d'espoir en ce sens.
Et là, il y a même un dossier en ce moment qui est devant la Cour suprême des États-Unis. Ça concerne l'État de New York et ça pourrait faciliter encore plus le port d'armes aux États-Unis.
Oui, parce qu'on dit que New York est trop strict, parce que les gens ont le droit de se défendre avec leurs armes à feu en vertu du 2e amendement, donc à la maison. Et on dit que si vous devez sortir avec votre arme sur vous, vous devez avoir une raison. Vous devez justifier pourquoi vous devez être armé. Est-ce que vous avez peur dans votre milieu de travail? Peu importe.
Ça, c'est dans l'État de New York.
Exactement. Et on dit non, c'est trop strict. On ne devrait pas avoir à donner une raison pour pouvoir sortir armé de la maison. C'est devant la Cour suprême. On sait qu'elle est à majorité conservatrice. Alors, pour l'instant, selon ce qu'on sait, on pourrait pencher justement pour les plaignants et dire que New York, c'est trop strict. Ça veut dire que les États auront encore plus de difficultés pour restreindre l'accès aux armes à feu et le port des armes à feu un peu partout aux États-Unis.
La National Rifle Association tient son congrès en fin de semaine. Ça se passe au Texas. Est-ce que ce lobby pro-armes a encore le pouvoir de freiner les lois qui voudraient encadrer davantage la vente d'armes?
Il semblerait que oui, parce qu'on finance par millions, et je dis bien millions, des élus, des candidats républicains dans des élections. Je regardais les statistiques. Mitt Romney, entre autres, a eu à peu près 13 millions dans sa carrière de la NRA, de ce lobby-là. Alors, c'est pour vous dire à quel point les poches sont profondes et on peut donner de l'argent. Alors oui, ils ont un pouvoir. Et eux, ce qu'ils disent, c'est « Attendez, s'ils prennent votre arme, c'est la première des étapes. Après, on prendra autre chose. » Alors, c'est vraiment cette rhétorique qui est très, très puissante. Et on a demandé de reporter ce congrès au Texas la même semaine que cette tuerie. On a refusé. Et Donald Trump, l'ancien président, s'y trouvera. Il va tenir un discours et dit « Non, c'est le temps pour le leadership. Alors, je ne veux pas annuler ma présence à ce congrès-là », qui ont eu une déclaration où on dit encore, bon, les prières, les pensées, et on pointe quoi du doigt? La santé mentale, en oubliant encore une fois le sujet des armes à feu, les armes d'assaut comme utilisées lors de cette tuerie.
Ça va être très intéressant à suivre. Parallèlement, on souligne aujourd'hui le deuxième anniversaire de la mort de George Floyd, donc cet homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis. Et le président a saisi l'occasion pour signer un décret pour réformer la police.
Oui, parce que c'est bloqué en ce moment au Sénat. On s'en est parlé dans les mois précédents. On essaie de réformer la police aux États-Unis, changer les mentalités. C'est extrêmement difficile. On a des blocages du côté républicain. Alors, ce qu'il a pu faire, Joe Biden, c'est signer ce décret juste avant qu'on entre en onde. Donc, il y avait une déclaration. Il le fait au niveau fédéral. Donc, la police provinciale et locale n'est pas touchée par ce décret, mais on encourage les gens à aller dans la même direction. Un registre pour les policiers que je vais dire délinquants, donc qui ont posé certains gestes pour pouvoir s'informer avant de les engager, peut-être. Aussi, justement, la fameuse prise d'étranglement pour maîtriser George Floyd. L'interdire, ça va de soi, on va dire, mais quand même.
Ce n'était pas déjà fait.
Alors, vraiment, tout ça pour responsabiliser les corps de police. Mais Noémie, est-ce qu'on va assez loin selon la famille, selon les proches? Non, on veut vraiment que ça soit jusqu'au niveau local, ces réformes. Reste à voir s'il y aura une volonté politique à Washington.
Un dossier à suivre.
Ça.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci.
Faisons le point maintenant sur la guerre en Ukraine qui est entrée dans son quatrième mois. La Russie a commencé à émettre des passeports russes dans les villes qu'elle contrôle en Ukraine, une décision que le gouvernement ukrainien a fortement dénoncée. Étienne Fortin-Gauthier a plus de détails. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Amy.
Émettre des passeports russes, le geste est vraiment lourd de sens.
Oui, absolument. Des passeports qui ont donc été remis à la population, quelques milliers pour l'instant, c'est ce qu'on dit. L'Ukraine dit que c'est une violation pure et simple du droit international et de la c'est une violation de la souveraineté de l'Ukraine. C'est ce que dit aujourd'hui le gouvernement ukrainien. Ils disent qu'ils n'ont aucune valeur, même ces passeports-là. Il faut dire que c'est une décision qui a été autorisée aujourd'hui par Vladimir Poutine, qui a signé un décret à cette réunion-là. Vous voyez les images actuellement. Un décret pour donc distribuer des passeports dans les villes de Kherson et Zaporizhia, qui sont maintenant sous contrôle russe. Et un éclairage un peu particulier là-dessus d'une ONG qui dit, attention, peut-être que ces citoyens ukrainiens qui reçoivent ces passeports-là vont être éventuellement conscrits par la Russie pour lutter dans ce conflit contre d'autres Ukrainiens. Donc, en ce moment, c'est assez flou, mais c'est ce qui a été autorisé aujourd'hui par Vladimir Poutine.
C'est assez stupéfiant, merci. Ouais. Pendant ce temps-là, on apprend aussi de nouveaux détails sur le siège de Mariupol, qui a duré pendant des semaines, dont on a beaucoup parlé. Le nombre de victimes est effarant.
22 000 morts, 22 000 citoyens de Mariupol qui seraient décédés, selon un haut placé de l'administration municipale là-bas. Maintenant, c'est une ville qui est sous contrôle russe, donc on n'a pas vraiment d'informations indépendantes de journalistes ou d'observateurs pour confirmer ces chiffres-là, mais c'est quand même effarant. Et c'est une ville où il y a des mines, des milliers de mines encore aujourd'hui. Donc, il y a des opérations de déminage, comme vous voyez, qui sont en cours, mais dans un contexte très difficile. Et ça survient alors que les États-Unis et l'Union européenne annoncent aujourd'hui la création d'une nouvelle unité d'enquête sur des crimes de guerre, sur les crimes de guerre qui seraient allégués en Ukraine. Tout ça fait dire à l'ambassadeur d'Ukraine aux Nations Unies que ça en est assez. Il y a eu assez de morts et que la Russie et Vladimir Poutine doivent parler avec les Ukrainiens.
He has not yet reached that point of realization that he has no way and means to achieve military victory. Unfortunately, all of us have to pay the ultimate price of lives of the Ukrainian soldiers and civilians for that. But there is no other way for him to sit down and to have face-to-face conversation with President Zelensky.
Et aujourd'hui, au sommet de Davos, on a parlé évidemment de la situation en Ukraine. La présidente de la Commission européenne dit que la Russie utilise également la nourriture comme une arme de guerre pour créer des situations de famine en Ukraine, mais que ça va avoir aussi des conséquences à travers le monde. Il y a plein de pays qui dépendent du blé ukrainien, notamment en Afrique du Nord. Donc, elle demande vraiment à la Russie d'arrêter, notamment de bloquer les ports qui permettent l'exportation de ce blé-là.
Merci beaucoup, Étienne.
Merci.
Le gouvernement Legault a déposé aujourd'hui un projet de loi fort attendu qui élargit l'accès à l'aide médicale à mourir. Le sujet fait consensus à l'Assemblée nationale, mais le projet de loi pourrait ne pas être adopté puisqu'il reste moins de 3 semaines avant la fin des travaux parlementaires. Je retrouve Simon Bourassa à Québec. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Donc, précisons ce qu'il y a dans ce projet de loi. Ça veut dire que si on est atteint d'une maladie comme l'Alzheimer, par exemple, qui nous rendra un jour inapte à décider de se prévaloir de l'aide médicale à mourir, on pourra faire une demande anticipée pendant qu'on est encore capable de prendre la décision.
Exactement, Noémie. C'était l'objectif de ce projet de loi. C'est ce qui a été beaucoup discuté aussi lors des consultations transpartisanes qui ont eu lieu au cours de l'année passée. Donc, c'est ce qui revenait souvent. Oui, aide médicale à mourir, mais dans la loi qui est en vigueur actuellement, c'était pas possible de pouvoir le faire de manière anticipée. C'était pas dans la légalité. Donc, maintenant, ça pourrait être fait. Vous allez le voir aussi à l'écran, là. Pour ce qui est des troubles... Des handicaps neuromoteurs, donc paralysie cérébrale, quadraplégie, des gens qui pourront également faire une demande d'aide médicale à mourir. Là, évidemment, il n'y a pas le critère de fin de vie ou de mort raisonnablement prévisible là-dedans parce que ce concept-là ne tient plus parce que il y a eu un jugement, donc le jugement Truchon contre le procureur général du Canada en 2019, des gens qui souffraient d'handicaps graves qui disaient « Nous, on voudrait se prévaloir de l'aide médicale à mourir ». Donc, grâce à ce jugement, maintenant, ça ne tenait plus. Il fallait tenir compte de ça dans la nouvelle mouture du projet de loi, le projet de loi 38, qui a été déposé aujourd'hui. Par contre, le point aussi qui avait été discuté lors des consultations, c'était qu'on a les troubles mentaux. Est-ce qu'une personne qui souffre suffisamment de problèmes de santé mentale peut faire une demande d'aide médicale à mourir? Bien ça, on a décidé de ne pas inclure cette clause-là dans le projet de loi. Voici pourquoi on écoute Christian Dubé.
Comme le fédéral n'a pas encore statué sur la question de santé mentale, nous, on a pris une décision très claire de suivre les recommandations, de ne pas aller là du tout en santé mentale. Est-ce qu'on y retournera plus tard lorsqu'il y aura peut-être une autre mise à jour? Mais en ce moment, c'était vraiment pas à propos de le faire.
Et puis, Simon, ce projet de loi a fait réagir la marraine de l'aide médicale à mourir au Québec, Véronique Yvon.
Oui, c'est pas des questions qui sont banales, à l'aide médicale à mourir. Donc, ça nécessite un processus de consultation, donc en commission parlementaire avec des consultations particulières qui est exhaustif. On veut prendre le temps de bien faire les choses. Là, il reste pas beaucoup de temps. Puis dans les consultations qui avaient été faites au préalable, il n'y avait jamais été question d'élargir les critères d'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont un handicap neuromoteur, donc comme je décrivais précédemment. Et pour ça, pour cette raison-là, Véronique Yvon dit que ça accroche.
Toutes les associations de personnes handicapées, toutes les personnes qui ne sont jamais prononcées sur la question du handicap parce qu'on ne les a pas consultées. Là, dans la dernière année, on n'a jamais fait de consultation sur cet enjeu-là. Il faut les entendre. On ne peut pas décider comme ça d'inclure un tout nouveau champ dans l'aide médicale à mourir, qui est un autre paradigme. Là, c'est pas du tout la même chose parce que vous pouvez avoir une personne de 20 ans mais qui n'est pas du tout, évidemment, dans une trajectoire de maladie grave et incurable. Là.
Merci, Simon. À la prochaine.
Bonne soirée.
Les candidats dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada s'affrontent dans un troisième débat ce soir. Et cette fois, ça se passe en français. À quoi on peut s'attendre? On en parle au retour. Quatre jours après les orages violents qui ont causé des dégâts majeurs dans plusieurs régions du Québec, plus de 66 000 foyers sont toujours privés de courant. Et de nombreux abonnés d'Hydro-Québec vont devoir s'armer de patience avant d'être rebranchés. Les équipes de la Société d'État ne ménagent pas leurs efforts, mais la tâche est ardue sur le terrain. C'est ce qu'a pu constater Emmanuel Runega dans les Laurentides.
tout arrachait, les arbres tombaient. Je pense que ça a duré 10 minutes, mais ça a paru plus long. C'était tellement fort, là, ça n'avait pas de sens. Mon premier réflexe, c'était de voir si j'avais de quoi sur la maison. Là, j'avais de quoi sur l'abri là-bas, je vais l'enlever tout de suite. Je sais pas si vous avez vu, là, toutes les lignes, il y a plein d'arbres de tombée. C'est sûr qu'il faut laisser passer le plus gros. Là, c'est d'enlever les arbres sur les fils puis avoir l'électricité.
Puis est-ce qu'on vous a dit quand ça reviendrait pour vous environ?
Oh, pas vraiment encore, parce que vraiment, ici, là, il y a un arbre au 10 pieds, là, ces lignes, puis il y en a des transfos d'arracher.
Pourquoi c'est si long? Bien, d'abord, parce que la zone de frappe a été très grande, 100 km par 300 km. En 3 heures, 4 heures, on a perdu 1 demi-million de clients. Une affaire de fou. Depuis le verglas, là, c'est pas mal ce qui nous est arrivé de plus important et de plus costaud. Chaque endroit où le camion se déplace, il se déplace dans une nouvelle zone de danger.
Le nerf de la guerre en ce moment pour Hydro-Québec, ce sont les poteaux, les fameux poteaux de distribution qui amènent l'électricité chez les gens. On parle d'un réseau qui est aérien. Il y aurait plus de 500 poteaux qui seraient tombés dans l'ensemble de la tempête.
C'est beaucoup de travail, donc il faut d'abord retirer le vieil équipement, enlever la végétation, donc dégager les troncs d'arbres carrément à la scie à chaîne pour être capable de travailler.
Donc le poteau a été changé depuis, alors ça c'est un poteau neuf. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est carrément le reprendre les conducteurs, réinstaller une traverse qui est la barre qu'on observe dans le haut des poteaux. Et c'est là-dessus qu'on va déposer les conducteurs de 25 000 volts. On va pouvoir réalimenter cette section-là.
On fait tout ça, puis au début des pannes, quand on fait ça, on peut raccorder 2 000, 3 000, 4 000 clients d'un coup. Plus on avance dans le temps, on fait exactement la même affaire, puis on raccorde 2, 3, 4 clients. Ça ne s'enfouit pas un réseau de distribution à grande échelle. Pour donner une idée, là, ça serait 100 milliards. Enfouir le réseau d'Hydro-Québec. Bon. Alors, il n'y a pas de doute que dans des régions boisées, de planter des arbres ou de laisser des arbres croître à proximité des lignes, c'est pas une bonne idée, parce qu'on va vivre de plus en plus d'événements à grand vent.
J'ai regardé la prochaine fin de semaine, il annonce encore des chaleurs et de l'humidité, mais non, tu ne m'as pas encore. Parce que ça, c'est les ingrédients hein, pour faire des gros coups de vent et tout ça. J'espère que ça ne reviendra pas tout de suite. Là, je regarde partout, bon, lui va être à couper, lui va être à couper. On a de l'ouvrage.
On se transporte sur la scène politique fédérale. Les candidats à la direction du Parti conservateur du Canada vont croiser le fer ce soir à Laval à l'occasion du troisième et dernier débat de la course, le seul en français. On va aller rejoindre Sabrina Rivet qui se trouve sur place. Bonsoir, Sabrina.
Bonsoir, Noémie.
Et ça risque d'être ardu pour certains parce que ce ne sont pas tous les candidats qui maîtrisent le français.
Non, effectivement, c'est ce qu'on va voir ce soir. Parce que, bon, on sait d'entrée de jeu que, par exemple, Jean Charest maîtrise bien la langue de Molière. Même chose pour Pierre Poilievre, qu'on l'a régulièrement entendu parler en français. Sa conjointe également, qui est francophone. Mais là, reste à voir après comment les autres candidats vont se débrouiller pendant ce premier et dernier, en fait, de ce dernier, voilà, parti en français. Donc, on a bien hâte de voir comment ça va se passer. Parce que, donc, il y a 6 candidats. Et pendant ce débat-là, bien, c'est là qu'on va voir comment ils vont se débrouiller. Parmi les candidats, bien, il y a une seule femme, par exemple. On a Leslyn Lewis, qui, elle est représentante de l'aile sociale et religieuse du parti. On a Scott Aitchison. Lui, c'est un député fédéral qu'on nous dit méconnu, mais qui pourrait peut-être surprendre. Roman Baber, ancien député provincial conservateur en Ontario. On a Patrick Brown, aussi maire de Brampton, en banlieue de Toronto. Alors, bien hâte de voir là, comment ça va se passer, ce débat-là, ce soir.
Et ça commence à 20 heures.
Ça commence à 20 h, donc en direct de Laval. D'ailleurs, bien, comme tu le disais, on est sur les lieux. Ça se passe dans cet hôtel, donc du côté de Laval. Donc, on va suivre ça et je serai en direct dans le bulletin de 22 h pour vous ramener tous les détails de ce débat-là.
Splendide. Merci, Sabrina.
Je
retrouve notre collaborateur sur la colline parlementaire à Ottawa, Christopher Nardi. Bonsoir, Christopher.
Bonsoir, Noémie.
Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce troisième et dernier débat en français?
Je pense qu'on peut s'attendre à un débat haut en couleur, assez intense, entre un nombre très limité de partisans. Donc, Sabrina le disait juste maintenant, on a essentiellement à peu près 2,5 candidats sur 6 qui parlent français. Pourquoi 0,5? Bien, écoute, on le sait bien, Jean Charest, un français impeccable, bien pratiqué, et Pierre Poilievre aussi, un très bon français. Et le 0,5, bien, c'est Patrick Brown, qui, fut un temps, parlait quand même assez bien le français. On le voyait souvent en entrevue sur les réseaux francophones, mais depuis plusieurs années, bien, il ne le pratique plus. Alors, ce que j'ai entendu dernièrement me laisse penser que son français est très rouillé, ce qui pourrait l'embêter aujourd'hui dans un débat qui risque quand même d'être très chaud, encore une fois, entre Jean Charest et Pierre Poilievre. Alors, pour les trois autres, Scott Aitchison, Roman Baber et Leslie Lewis, ben, je m'attends à ce qu'on lise énormément de notes et on se colle, dans le fond, le visage dans la feuille. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'interférences dans le débat de leur part, surtout lors des échanges un peu plus corsés qui risquent de venir pendant la deuxième moitié. Et ce soir, bien, les sujets seront un peu semblables au dernier débat en anglais il y a deux semaines. Donc, on va parler d'immigration, on va parler du coût de la vie, la santé. On va parler aussi des affaires internationales et, nouveauté de ce soir, des enjeux spécialement québécois. On n'a pas précisé, mais on peut présumer que la loi 21 ainsi que la loi 69 en feront partie. 96, excuse-moi, en feront partie ce soir.
Oui. Qui a le plus à gagner et qui a le plus à perdre, d'après toi, ce soir?
Bien, selon moi, la réponse aux deux questions, c'est Jean Charest. Alors, les experts qui regardent cette course de près le disent, s'il ne rafle pas la majorité des 78 circonscriptions du Québec lors du vote le 20 septembre, bien, sa campagne est morte dans l'œuf. Il a un déficit de popularité, surtout à l'extérieur du Québec, comparé à Pierre Poilievre. Et donc, il doit absolument s'assurer d'avoir un bon succès au Québec. Et évidemment, bien, ça passe par un débat en français. Comme je le disais tantôt, c'est Jean Charest qui maîtrise le mieux la langue, donc il part déjà avec un avantage. Mais Pierre Poilievre, lui, il parle très bien. Donc, s'il réussit à lui coller plusieurs points ou même se comparer et quasiment faire égalité, bien, c'est une défaite un peu pour Jean Charest qui doit vraiment se démarquer dans ce débat-là et faire comprendre aux gens pourquoi il se présente vraiment comme conservateur après toutes ces années à l'extérieur de la politique.
Oui. Et le dernier débat qui avait eu lieu à Edmonton avait quand même fait jaser à cause de son format particulier. Il y avait des questions étranges. Il y avait aussi des effets sonores quand les candidats enfreignaient les règles. Est-ce qu'on aura droit au même genre de spectacle ce soir?
Bien, je suis autant content que triste de t'annoncer, Noémie, qu'il n'y aura pas de moment comme celui que je vais vous faire écouter dans le dernier débat.
When have we ever heard the Prime Minister say I believe in this project. I think it should happen. And yes, please, I'm delighted to name him if you want me to.
OK. Donc, on a entendu le son du trombone là, qui rappelait à l'ordre Jean Charest. Donc, on n'aura pas droit à ça.
C'était assez unique. Ça m'a fait sauter la première fois. C'est arrivé deux autres fois pendant ce débat-là. Noémie, il n'y aura pas de point-point, il n'y aura pas de trompette, il n'y aura pas d'écriteau que les candidats devaient utiliser pour vouloir prendre la parole. Alors, ce soir, on annonce un débat plus sobre avec des plus longs temps de réplique aussi. Et ça, ça va être intéressant parce qu'au dernier débat, on donnait des fois juste seulement 15 secondes aux intervenants pour parler. Alors, cette fois-ci, ça va être des 45 secondes et aussi des séances de face-à-face de 4 minutes où il n'y aura pas de limite dans les gens qui peuvent parler. Alors, ça risque d'être assez corsé.
Bon, bien, ça va être passionnant. Merci pour cet avant-match, Chris. On se retrouve bientôt.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Au lendemain de l'adoption de la loi 96 qui renforce la Charte de la langue française, les inquiétudes demeurent vives parmi les anglophones. Certains d'entre eux craignent de ne plus avoir accès aux services dans leur langue. Notre journaliste Raquel Fletcher a rencontré une Californienne qui vit à Québec depuis 5 ans et qui a décidé de quitter la province.
Dites-moi, pourquoi vous êtes venue à Québec?
I met my husband in Thailand in 2015. And then we decided we fell pregnant, and at about 5 months pregnant, we decided to move closer to home. We're staying with his mom. C'est difficile, mais I can get by.
Pourquoi vous avez décidé maintenant de quitter le Québec?
We definitely had plans to go back before then, but it definitely didn't help.
Après 5 ans de s'être occupée de ses enfants, Christina voulait retourner au travail. Mais elle a jugé que son français n'était pas adéquat.
Voici pourquoi sa décision de retourner en Californie. Mais il y avait aussi une autre raison, la loi 96. Cette loi qu'elle qualifie d'horrifique était le dernier clou dans le cercueil pour Christina et son mari.
When you see things like language inspectors and, you know, search and seizure without a warrant and making sure through these different, you know, arms of the government that, you know, English is not being overused and you have a certain amount of time to learn French after you come here. For me, it was just like this, my God, like, what? It felt like a criminal.
Une grande préoccupation pour beaucoup d'anglophones, c'est l'accès aux services en santé. Après l'adoption de la loi 96 mardi, le premier ministre a réitéré que ces services seront garantis. Mais la communauté n'est pas rassurée.
We are committed to protecting your access to healthcare in English.
Le système de santé est compliqué en soi. Offrir des services veut dire avoir le personnel en place, formé. C'est trop facile pour le premier ministre de dire, inquiétez-vous pas, vous allez avoir des services.
The last time I went to the hospital was the Heart and Lung Institute. The whole visit was in French. I tried my best. Now we're talking something about a heart monitor, and I just wanted to make sure that I understood. And I said, you know, est-ce que je peux téléphoner ma belle-mère just pour m'assurer que je comprends tout que vous avez dit? And j'ai pas le temps for that.
Je l'ai vu revenir souvent à l'envers de des visites comme ça chez le médecin. Puis dans un Québec qui est en pénurie de main-d'œuvre, on va les repousser, ils vont s'en aller vers les provinces de l'Ouest puis l'Ontario parce qu'ils vont sentir plus bienvenus.
You know, overall, my experiences here has been good, but not in terms of how I've been received as an English speaker. I'm afraid that this bill is going to be, it's just like, it's hostile enough towards English-speaking people. This, for me, just feels like it's going to take it to this other level.
Depuis 4 ans, les demandeurs du statut de réfugié n'avaient plus accès aux services de garde subventionnés à 8,50 $ par jour au Québec. Mais ce matin, la Cour supérieure a tranché en leur faveur dans un dossier qui opposait une demandeuse d'asile au gouvernement Legault. Anaïs Elbouchdani a suivi ce dossier pour nous. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir.
Alors, la décision, évidemment, réjouit les groupes de défense des droits des demandeurs d'asile.
Exactement. Le juge Marc Saint-Pierre a tranché. Québec n'a pas le droit d'exclure les demandeurs d'asile d'un accès à des garderies subventionnées. Et pour ça, il s'est basé sur un article de la loi sur les services de garde. Tu peux le voir, là. La citation, c'est « Tout enfant a le droit de recevoir jusqu'à la fin de l'enseignement primaire des services de garde éducatifs personnalisés de qualité. » Ça, ça remonte à 2018. C'était sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, mais la CAQ a maintenu cette dérogation à la loi. Par contre, là, tout n'est pas joué parce que le gouvernement a encore 30 jours pour voir s'il va porter cette décision en appel.
L'accès aux garderies, c'est certainement pas le seul défi auquel font face les demandeurs du statut de réfugié.
Oui, dans un tout autre ordre, là, j'ai rencontré le collectif Bienvenue qui aide les personnes sans papier à se loger, à avoir des meubles. Et pour eux, en ce moment, là, ça fait quelques semaines, il y a un grand problème. Ils ont des manques pour des objets pour les nouveau-nés. Parce qu'ils disent qu'ils reçoivent de plus en plus de demandeuses d'asile enceintes. Je vous invite à regarder ma capsule.
On regarde ça.
Donc, on est arrivé et c'est impressionnant. Tous les meubles, tout destiné à des familles de demandeurs d'asile qui viennent d'arriver. Là, il y a la section jouets d'enfants. Bonjour!
On a vraiment tout, sauf pour les nouveau-nés.
Okay.
Il nous manque vraiment beaucoup de matériel pour les nouveau-nés, puis c'est souvent c'est un grand besoin parce qu'ils sont enceintes. Sinon, il y a beaucoup de couvertures qu'on n'a pas. Les car seats non plus, il n'y en a vraiment pas. Donc, c'est pour ça que c'est un grand besoin parce que sinon, quand elles rapportent le bébé chez eux, il y a vraiment...
Si elles ont les mains vides, là.
C'est ça, exactement. Donc, on a des couches pour enfants, mais on n'en a vraiment pas pour les nouveau-nés. Il nous manque aussi beaucoup de poussettes. Ça va vraiment aider les femmes, tu sais, lorsqu'elles doivent se rendre à un rendez-vous. Sinon, des high chairs pour les bébés.
Pour manger.
Pour manger, c'est ça. Puis, quoi d'autre? Des vêtements.
Mais le plus important pour moi, c'est la sécurité. C'est ça que je cherche.
et le bien-être de mes enfants aussi. J'ai environ 5 mois à Montréal.
Ça fait 5 mois que vous êtes ici et vous êtes aussi enceinte. Est-ce que vous pouvez nous dire de combien de mois?
De 5 mois.
Donc, qu'est-ce que ça représente d'être enceinte et d'être dans un pays où vous êtes en processus de demander l'asile?
C'est un peu difficile parce que j'en ai pas de famille ni amis au Canada.
Les femmes enceintes sont vraiment entourées de divers enjeux. Donc, il y a les enjeux de soins de santé. Donc, c'est difficile de trouver des soins obstétriques, surtout par elles-mêmes. Souvent, elles doivent être accompagnées.
Vous allez à vos rendez-vous médicaux pour la grossesse. Comment est-ce que ça s'organise?
Au début, c'était très difficile, mais après, je recherche partout. Et j'ai rencontré un clinique et c'est là que je fais mon suivi de grossesse.
Pourquoi c'était difficile?
Parce que j'avais seulement l'accusé de réception de l'immigration. C'est ça qu'on m'a donné à la frontière.
Donc vous êtes passé par exemple par le chemin Roxham, on vous donne un accusé?
Oui, par le chemin Roxane.
C'est pour ça que c'est très stressant de préparer une grossesse dans un endroit où est-ce qu'on ne connaît pas toujours la langue, on ne connaît pas le système de santé.
Et comment est-ce que l'organisme ici vous aide?
Je considère que l'organisme Bienvenue Collective, c'est comme si c'est ma famille, parce qu'ils m'ont beaucoup aidée. Dans tout le pays, le début, c'est toujours difficile, mais après, ça va être plus facile, je crois.
La ministre québécoise de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a fait une sortie en règle contre le gouvernement fédéral. Questionnée sur la violence armée dans le Grand Montréal et sur la tuerie dans une école primaire du Texas, elle a exhorté Ottawa à prendre ses responsabilités en matière de contrôle des armes à feu. La ministre affirme qu'elle fait tout en son pouvoir pour prévenir ce type de criminalité. Selon elle, c'est le fédéral qui est responsable des frontières et qui doit s'assurer que les armes illégales n'entrent pas au pays.
Dans notre société, on a quand même des règles plus strictes, on a des piliers, on a des organisations policières mobilisées sur lesquelles on peut s'appuyer pour enrayer ce fléau-là. Mais il faut le faire avec toutes les parties prenantes. Le fédéral a une responsabilité et on a aussi une responsabilité en prévention. J'en parle souvent parce que c'est moins spectaculaire et moins immédiat que la répression. Mais si on veut que nos jeunes arrêtent d'avoir des fusils dans les mains à 11 ans, 12 ans, 13 ans, puis qu'ils se mettent sur Internet avec ça, puis qu'ils commencent à se tirer entre eux dans les rues n'importe où, n'importe quand, il faut qu'ils aient des options constructives dans la vie. Et ça, c'est la prévention, c'est nos organismes.
Les Québécois Félix Auger-Aliassime et Leila Annie Fernandez passent au 3e tour du tournoi de Roland-Garros en France. On en parle avec notre collaborateur Ray Lalonde au retour. Les Québécois continuent leur progression au tournoi de tennis de Roland-Garros. Félix Auger-Aliassime et Leila Annie Fernandez ont tous deux gagné leur match à Paris aujourd'hui. Ils sont à 2 victoires d'accéder au quart de finale. On en discute avec l'analyste sportif Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Noémie.
Alors, ça va bien pour Félix et pour Leila. Jusqu'où est-ce qu'ils pourraient se rendre, à ton avis? Est-ce qu'on y croit?
C'est difficile sur terre battue. C'est un tournoi qui est très unique en son genre. Une surface difficile pour les Nord-Américains généralement. Ceci étant, Félix a un beau parcours devant lui. Il va affronter Krajinovic à la prochaine ronde, la 3e ronde. Mais s'il remporte ce match-là, au 4e tour, se dresserait Rafael Nadal. Le plus grand des défis sportifs aujourd'hui, c'est de battre Nadal sur terre battue. Pour ce qui est de Leila Fernandez, Belinda Bencic qui l'attend. C'est une joueuse qui a déjà gagné des gros tournois, elle est d'origine en Suisse. Et puis, elle est capable, elle est classée 14e dans le tournoi. Donc, ça va être un gros test pour Leila Fernandez. Puis devant elle, si elle traversait, il y aurait éventuellement Angelique Kerber. C'est quand même un parcours où beaucoup des têtes de série chez les femmes, Noémie, sont déjà éliminées. Alors, il y a des opportunités pour Leila Fernandez.
Ah, bien, c'est magique. Mais puis parlant de Belinda Bencic, elle a battu aujourd'hui la Canadienne Bianca Andreescu, qui continue à connaître des difficultés.
Bien, c'est un retour progressif, Noémie. Elle a eu le championnat au US Open en 2019. Et ça a été suivi par beaucoup de difficultés physiques, santé, blessures qui ont littéralement duré presque un an et demi. Elle est sur un retour. Son jeu s'améliore, la qualité de son jeu s'améliore. Elle est de plus en plus capable de survenir pendant deux, trois manches. Le test, éventuellement, pour elle, c'est de jouer beaucoup de matchs, aller plus loin dans les tournois, remonter au classement mondial, puis avoir une chance de gagner un gros tournoi. Mais c'est dur parce que la compétition est féroce chez les hommes, chez les femmes. Il y a tellement de bonnes joueuses à travers le monde. Puis quand tu as un raté, tout de suite, il y a une autre joueuse qui s'impose. Difficile de tenir tête à tout le monde.
Bien oui, il y a énormément de mouvements, hein, surtout chez les femmes. Parlons de basketball, parce qu'il y a un moment qui s'est passé hier qui fait énormément, qui a retenu énormément l'attention aujourd'hui. Steve Kerr, qui est l'entraîneur des Golden State Warriors, a profité d'une conférence de presse d'avant-match pour s'exprimer sur la tuerie qui a eu lieu hier au Texas. On va en écouter un extrait, si tu veux bien.
Now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough.
C'est vraiment un moment incroyable. Puis à la fin, il s'est levé, il est sorti, il n'a pris aucune question sur le basketball. Ça nous change vraiment des conférences de presse qu'on voit dans la Ligue nationale de hockey, non?
Oui, bien pour mettre dans le contexte, d'abord, Steve Kerr, c'est un des hommes les plus influents dans la NBA. 8 championnats, Noémie, à son actif. 3 comme joueur avec les Bulls, 2 avec les Spurs et 3 comme entraîneur des Warriors qui sont à un match de la finale. Il pourra en remporter un quatrième. En même temps, son père a été assassiné, lui, en 1984, à American University, à Beyrouth, au Liban. C'était un professeur ambassadeur pour les États-Unis. Il a été victime d'une tuerie lui-même. Steve Kerr, ça le touche profondément. Steve Kerr a toujours eu quelque chose à dire de très affirmatif contre Donald Trump, avec Black Lives Matter. Il s'impose toujours au niveau sociopolitique et les gens l'écoutent, Noémie. Parce que ce qu'il a dit hier, c'était avant un match de série de la NBA. Et il a quand même profité de l'occasion et de sa plateforme pour aller jusqu'au bout. Puis son message est très percutant.
Ah, c'est percutant et ça a été énormément partagé aujourd'hui à un match de la finale du championnat. Donc, on va suivre ça avec toi, entre autres. Ray, merci.
Avec plaisir. Merci, Noémie.
La première du spectacle Harmonium symphonique Histoire sans parole a eu lieu hier soir à Trois-Rivières. 10 représentations seront présentées à l'amphithéâtre Cogeco jusqu'au 4 juin prochain. Ce spectacle fait suite à un album sorti à l'automne 2020. 64 musiciens de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières et le Chœur des jeunes de Laval sont sur scène pour faire revivre les grands classiques du groupe. Sur le tapis rouge, la nostalgie était au rendez-vous. Serge Fiori était présent, entouré de plusieurs de ses amis, et notre collègue Rebecca Pépin était sur place. Elle a recueilli quelques commentaires.
Ouais, je pense que ça vient de changer le reste de ma vie. Parce que quand tu accroches le mot symphonique à ta musique, il y a quelque chose qui ne rentre pas, tu sais. J'ai un petit cul avec ma guitare, avec des tonnes, puis là, c'est symphonique. Je suis débordé, là.
J'ai reçu, le 26 avril 1975, pour ma fête de mes 17 ans, l'album, le premier album d'Harmonium, Harmonium d'Harmonium. Et pour moi, c'est un souvenir marquant, d'abord, de cadeau de ma blonde, t'as 17 ans, t'es content. Et l'œuvre qui m'a marqué toute ma vie, tout ce qui a suivi, et sans jamais imaginer qu'un jour je serais ami avec Serge et que je me retrouverais ici où on va célébrer son œuvre.
Moi, comme souvenir Harmonium, je me souviens qu'une de mes sœurs écoutait déjà, elle avait reçu un CD des 5 saisons, puis elle l'écoutait en boucle. Je me souviens que j'étais fascinée à quel point je trouvais ça beau.
Pour moi, Serge Fiori, c'est l'âme québécoise, c'est l'essence de ce qu'on est.
Bonsoir, Étienne. Alors, c'est toi qui es à la barre du fil 22h ce soir. Vous allez revenir sur la tuerie d'Uvalde au Texas. Le portrait se précise, hein? Il y a de plus en plus d'informations qui émanent.
Et on découvre les visages aussi de toutes ces jeunes victimes, hein, qui allaient simplement à l'école et qui sont victimes de cette fusillade qui est survenue hier. Bien, ce soir, on a Francis Langlois, qui est spécialiste de la question des armes à feu à la chaire Raoul Dandurand, qui va nous analyser toute cette question politique et sociale aux États-Unis. On a vu des voix s'élever dans toute la société civile américaine aujourd'hui, hein, dans le milieu du sport, dans le milieu social, et qui demandent des actions, mais il y a un blocage politique, donc on va revenir avec lui sur tout ça.
Intéressant. Un nouveau projet de loi sur l'aide médicale à mourir au Québec aujourd'hui. Et là, il y a un nouveau groupe qui est admissible à l'aide médicale à mourir, puis ça fait pas l'unanimité.
Exactement. Les personnes atteintes d'un handicap neuromoteur grave, là, comme les personnes quadraplégiques notamment, et ça faisait pas partie des consultations sur le sujet. Donc, l'opposition dit que ça pourrait bloquer parce que ça mérite des consultations avant qu'on aille de l'avant avec cette décision-là. Donc, on va revenir sur tout ça avec le Dr David Lucier de l'Institut de gériatrie de Montréal, qu'on connaît bien.
Merveilleux. Donc, puis vous suivez aussi le débat entre les candidats au Parti conservateur du Canada. À demain, tout le monde. Demain, 17h.